divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. Bonjour. Au micro, Christophe Bitteau, vice-président de la Fédération nationale de la libre-pensée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Émilie Moncillon. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Pour parler de sujets aussi vastes que la famille, la sexualité, le genre, etc., etc., ce qui nous place un peu dans la continuité de l'émission du mois dernier. Ma première question sera très traditionnelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots votre parcours militant, vos différents engagements, etc., etc.
Bonjour à tous et puis merci de m'inviter à parler de tous ces sujets vastes sur lesquels je vais essayer d'être efficace. Mon parcours, par contre, n'est pas encore très long. Je vais avoir 40 ans cette année. Je suis membre de la Libre Pensée depuis une quinzaine d'années. Je milite au sein de la Fédération Ardéchoise et Drômoise, dont je suis vice-présidente. Plus globalement, je suis militante féministe, pacifiste, antiraciste, internationaliste. Je fréquente le milieu associatif et notamment la radio libre. Je suis autrice d'exposés sur notamment le SNU, les femmes dans la Commune de Paris. Et puis au sein de la Libre Pensée, je suis particulièrement les questions concernant la jeunesse et les femmes. Et puis en bonus, je suis membre du CA de l'IREL, l'Institut de Recherche et d'Études de la Libre Pensée.
Eh bien, malgré votre jeune âge, c'est un beau pédigré. Alors, concernant la famille, la sexualité, le genre, toutes ces questions que j'ai évoquées en introduction, la position de la libre pensée pourrait sans doute se résumer en quelques mots. Entre adultes consentants et sans violence, tout est permis. Ce qui motive l'action de la libre pensée, c'est de mettre en œuvre les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Alors, sur ces sujets, Émilie, quid de la liberté ?
Bon, je voudrais pas... comment enchaîner les banalités, mais oui, la liberté, rien que la liberté, je sais pas si ça paraît à tout le monde aussi essentiel qu'à moi. Bon, la plus grande des libertés, je crois que c'est d'avoir la possibilité d'accorder, de donner ou de refuser son consentement en toutes les matières, en sexualité en particulier, mais en toutes les matières. Alors je dirais en effet, entre adultes consentants, sans violence, sans contrainte, pour le reste, c'est toujours une question de goût. La liberté d'user ou non d'un droit, la liberté d'avoir recours à l'IVG ou de ne pas avoir recours à l'IVG, la liberté de se marier, de se paxer, de vivre avec quelqu'un du même sexe ou de pas le faire, la liberté de corps, la liberté de conscience. Voilà, pour moi, ça touche à tant d'aspects de mon quotidien et de la vie que ça va encore bien au-delà du sujet de la famille ou de la sexualité ou du genre. Mais c'est un préambule... à presque tout sujet de conversation.
La liberté, effectivement, c'est universel, à la différence de la morale, qui, comme le disait Léo Ferré, le problème avec la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Alors maintenant, l'égalité, Émilie.
Je pense que ça rejoint, ça va évidemment rejoindre ce dont je parlais avant, hein, on est sur notre devise française. ça rejoint l'égalité, l'égalité naturelle, elle n'existe pas. Les hommes, avec un grand H, naissent libres et égaux en droit, si l'on en croit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'égalité, elle doit être en matière de droit avant tout. Y a évidemment un tas de mesures politiques qui permettraient de gommer les mécanismes sociologiques de reproduction sociale qui créent ces inégalités à la naissance. Mais jusque-là, on les voit bien à l'œuvre et on voit bien que on est très inégaux et que pour essayer de compenser, de gommer ces inégalités, la seule manière, c'est de légiférer, c'est de donner des droits aux gens. Voilà. Bon, il y a des tas d'autres mécanismes sociologiques qui créent des inégalités en droit et qui sont pas vraiment bien compensées. Ce serait inutile de contester les inégalités de différence de traitement entre les femmes, par exemple, et puis pour les minorités sexuelles, dites sexuelles. Ces différences, elles sont évidemment jamais à l'avantage des personnes que je viens de citer. Et
bien
donc,
sûr.
Tout projet sociétal doit exiger une réelle égalité et les discriminations dues au genre ou à l'orientation sexuelle ne devraient plus être tolérables ou tolérées.
Tout à fait. Alors, le dernier terme, il est beaucoup plus vaste et sans doute beaucoup plus abstrait. On parle de fraternité, mais là, en l'occurrence, vu le sujet, on pourrait aussi parler de sororité.
Ah, et ben écoutez, vous me coupez l'herbe sous le pied, parce que oui, la fraternité, moi je réponds un peu la sororité, parce que ben voilà, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des adelphes, comme on dit aussi quand on essaye d'être plus large. Notre devise, elle est sérieusement mise à mal ces temps-ci. Mais s'il y a bien un terme qu'on entend à peine, c'est celui de fraternité. Il n'a pas l'occasion d'être dévoyé, parce que il est un peu absent. Il est absent, mais moi, quand j'entends fraternité, je pense lutte collective. Certains disent intersectionnalité, on en a entendu parler dans l'émission précédente. Moi, peu importe, en fait. Hein, l'important, c'est de se dire que dans l'idée, dans la pratique, les opprimés ont des choses à se dire, ont des choses à voir en commun, ont des revendications à porter ensemble. Voilà. La montée de l'extrême droite, elle fait l'effet inverse. Elle nous divise, elle essaye d'annihiler la fraternité et la sororité. Donc je pense, voilà, il est indéniable que les luttes féministes, les luttes pour les droits des catégories LGBTQI, et j'oublie des lettres, j'en suis désolée, les luttes antiracistes ont beaucoup en commun et que ces questions, elles doivent se rencontrer dans le débat et dans le militantisme.
On pourrait presque plutôt parler de solidarité. Il y a, je trouve, une forme de paradoxe, c'est-à-dire que nos grands ancêtres libres penseurs comme Lorullo étaient pour l'amour libre, considéraient le mariage comme une institution bourgeoise, et puis on s'est battu, il y a quelques années, pour le mariage pour tous, qu'on soit homosexuel, hétérosexuel. Alors, comment analysez-vous, de votre côté, la question du mariage ?
Je pourrais commencer par une boutade et dire que tout le monde a le droit à un mauvais diaporama. Il y a une mauvaise vidéo pour célébrer l'amour qu'il porte à son conjoint ou sa conjointe. Mais voilà, il y a l'aspect moral du mariage dont, en effet, à la libre pensée, je crois qu'on n'est pas friand de cet aspect-là. Il y a l'aspect légal. C'est là-dessus que je vais revenir après. Donc pour moi, il resterait à moderniser sérieusement le mariage, qui, à mon sens, est encore trop souvent une prison pour les femmes. Mais le mariage, c'est aussi un contrat qui assure des droits. Et en matière de droits, la meilleure des protections juridiques, par exemple en cas de décès pour un conjoint, une conjointe, eh bien, ça reste le mariage. Et les couples non mariés, dans les successions, sont très désavantagés, c'est très compliqué. Quand on veut fonder une famille, voilà, c'est un contrat qui donne nettement des avantages, en tout cas dans ce contexte-là. Donc sous quel prétexte, en fait, on pourrait refuser les mêmes droits aux couples homosexuels ? Sous aucun prétexte. Les arguments des détracteurs, ils sont nombreux, mais en fait, ils sont toujours moraux ou religieux. Dans une société juste, le mariage pour tous les couples d'adultes, c'est seulement une mesure d'égalité. C'est sans doute ça, en fait, qui pose problème aux détracteurs du mariage homosexuel. Voilà, on peut inventer toutes sortes de choses derrière, mais la vérité, c'est qu'ils ne veulent pas l'égalité des droits.
Donc on est toujours dans l'idée d'égalité des droits. C'est un secret pour personne, la libre pensée est anticléricale, et la pédocriminalité est un fléau qui est souvent, pas seulement, bien évidemment, hein, ne soyons pas caricatural par ailleurs, mais enfin qui est souvent lié au crime de l'Église catholique.
Oui, enfin là, les affaires... sont nombreuses dans les médias. Les cas qui seront jamais des affaires sont, elles, encore plus, sont encore plus nombreux, ces cas-là, parce qu'il y a encore un tabou, il y a encore une certaine tolérance, il y a encore une chape de plomb sur la parole des enfants. Internet a malheureusement permis plein de choses, mais a permis, voilà, malheureusement, de nombreux pédocriminels, de se rencontrer. C'est-à-dire qu'avant, un pédophile isolé avait du mal à partager sa petite passion comme ça, dans les réunions de famille. Hein. Donc, Internet et le Darknet, notamment, a permis aux gens de se trouver, d'échanger des photos, des vidéos, trouver des victimes, échanger ses propres enfants. Enfin, voilà, pour ça, c'est assez tragique. Mais si, pour protéger les enfants, il suffisait de les éloigner des ecclésiastiques, ce serait très simple, ce serait trop simple. Maintenant que l'abbé Pierre est mort, en plus, vous voyez, ça fait un prédateur de moins. Mais il ne faut pas oublier que, comme la majorité des violences sexuelles, la pédocriminalité, elle prend place dans l'environnement familial et amical de l'enfant. Voilà, je signale que 3 enfants par classe sont victimes d'abus sexuels incestueux. Voilà, c'est un sujet qui est évidemment délicat à aborder au repas de Noël. Cela dit, voilà, je crois qu'il faut qu'on se regarde les uns les autres et qu'on aborde le sujet. Les réactionnaires poussent des cris, voilà, de doigts blanches à la mention de séances d'éducation sexuelle, mais sont une grande partie du problème. En fait, ces gens qui luttent contre l'éducation sexuelle parce qu'il s'agit avant tout d'assurer la santé et la sécurité des enfants. Les enfants doivent connaître leurs limites, doivent connaître les limites, doivent savoir ce qui est anormal qu'on leur fasse, même quand c'est tonton, un membre de la famille à qui on est censé faire confiance, pour pouvoir parler, être entendu. L'ignorance de son corps et de ses droits, c'est ce qui permet souvent aux prédateurs d'en abuser. Je pense que ceux qui luttent un peu là pour que les enfants, les femmes restent dans l'ignorance de leurs droits, en fait c'est ceux qui craignent l'émancipation de ceux sur lesquels ils règnent depuis très longtemps. Voilà. Je voulais dire aussi que sur ce sujet, on a un lourd héritage culturel, se disant libertaire. Voilà, je vais mentir si je dis ça, mais en tout cas j'ai vu des archives, des émissions des années 80 où voilà Gabriel Matzneff sur la télé quoi, qui fait état de ces crimes pédocriminels. C'est complètement de fou de se dire que voilà, on doit faire avec cet héritage-là, avec des gens qui n'ont aucun complexe à ce moment-là à déblatérer ça. Et puis, d'un autre côté, il y a les traditionalistes qui auraient tendance à carrément nier l'humanité de l'enfant et à revendiquer qu'un adulte a toujours raison face à un enfant. Ça aussi, il faut rompre avec cette idée-là. Il faut faire un grand coup de ménage, en fait. Il n'est pas question de procéder par petites étapes. Je crois que ça va brusquer, mais il faut brusquer.
Alors, brusquons. On va passer à quelque chose d'actualité où vous avez évoqué des sujets qui étaient évoqué dans le passé. Maintenant, là, on va parler de quelque chose d'une brûlante actualité. Est-ce que vous êtes posé, au sein de la Libre Pensée, la question du genre et de la transidentité?
Oui, et comme vous dites, c'est pas dans le passé. C'est-à-dire que c'est des questions qui sont restées... Pour plusieurs raisons, hein. C'est-à-dire que c'est des termes qui sont enfin prononcés, que c'était des choses qui étaient vécues douloureusement dans l'intimité jusqu'ici, et que enfin les termes sont posés, que les gens s'expriment, que les gens revendiquent, et c'est très bien. Donc voilà, moi, à titre personnel, je me suis jamais posé la question. Cela dit, j'ai mis au monde des enfants, la plus grande à 16 ans, et aujourd'hui, ce sont vraiment des questions et des problématiques qui prennent une certaine place dans les discussions entre les adolescents, mais surtout parce que ces questions et ces adaptations que vivent les enfants, elles ont pour conséquence des discriminations, du harcèlement, des violences. C'est ça qui provoque la souffrance des gens qui sont en questionnement sur leur identité de genre. C'est le harcèlement et c'est le fait que la société ne les accepte pas. Ce n'est pas en soi le questionnement ou la différence.
C'est le rejet.
Tout à fait. Dans les faits, je disais, la transidentité, elle n'est pas du tout nouvelle. Mais voilà, on a posé des mots, on a posé des concepts dessus. Et la société, elle doit discuter parce qu'elle doit s'adapter à ça. Elle ne peut pas juste faire comme si ça n'existait pas. Voilà, admettre, ça me semble un bon début. C'est déjà un très bon début. Se mettre à l'écoute. Aucune réponse légale ou sociétale devra comporter de discrimination. Ça ne peut pas être une réponse à ça. Admettre, ne pas exclure. Et puis ensuite, les sociologues, les scientifiques, et puis, en premier lieu, les premiers concernés vont aider la société à trouver les réponses adaptées à ce nouveau questionnement. Voilà, c'est le début. Hein. Et pour ma part, je souhaite rappeler que non, la société, l'ordre ou la civilisation ne vont pas s'écrouler et ne sont pas en danger parce qu'on interroge les questions de genre. Enfin, on ne craint rien. je ne sais pas, moi, ce que j'aurais à perdre que ma fille m'exprime un changement à ce niveau-là. Rien, j'aurai toujours mon enfant. Ceux qui craignent pour la civilisation, je pense qu'ils semblent surtout craindre pour leurs privilèges, les privilèges de ce genre qui sont entretenus, entre autres, par cette binarité qu'on voudrait nous faire croire naturelle, mais qui est une construction sociale pure. Donc voilà, l'homme et la femme complémentaires et ce genre d'idiotie. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une idiotie. On va devoir rompre avec ça et faire le ménage dans nos notions.
Effectivement, je crois que Personnellement, j'ai toujours pensé que ce soit au niveau du genre, au niveau de la sexualité, nous aurons franchi un grand pas quand nous serons passés du droit à la différence au droit à l'indifférence, et que finalement, ça soit simplement une liberté individuelle. Et ce qui se passe dans le lit du voisin ne nous concerne pas.
Ouais, ou des organes génitaux qu'il aurait dans son slip. C'est assez hallucinant que ce soit un sujet comme ça. Juste pour conclure sur cette question, pour l'instant, c'est trop source d'inégalité, de discrimination pour qu'on coule tout dans une seule chape. Mais un jour, j'espère qu'on y sera.
Espérons. Alors, il nous reste un petit peu plus d'une minute, à peine plus, mais nous ne pouvons pas conclure une telle émission sans parler, bien sûr, du féminicide et de la violence faite aux femmes. Alors, malheureusement, nous allons en parler en une minute, mais...
La question mériterait sa propre
oui,
émission. Moi, je dis que ça trouvera sa réponse dans l'éducation. On transmet dans notre éducation, dans nos médias, dans la littérature, dans le cinéma, dans le vocabulaire, dans la grammaire, l'expression d'une société misogyne. Dès sa conception, les fœtus mâles et femelles sont adjectivés différemment, les bébés sont adjectivés différemment en fonction de leur sexe. Et je pense que c'est cette différenciation qui façonne et qui permet les violences faites aux femmes. La littérature qui traite de ces questions est nombreuse. Je pourrais vous conseiller les ouvrages de Rose Lamy, Défaire le discours sexiste dans les médias, qui s'intéresse à la façon dont les médias traitent la question des violences faites aux femmes, et plus récemment, En bon père de famille, qui résonne fort avec le procès des agresseurs de Gisèle Pélicot qui a lieu en ce moment, et qui démystifie l'image du monstre violent. Voilà, juste pour conclure, je dirais que malheureusement, on ne pose pas les bonnes questions et que le not all men nous ralentit. Ne commençons pas par ça et posons-nous les questions de la masculinité et de qui fait la violence.
Bien, et bien ce sera un beau mot de conclusion, notre émission arrivant à son terme. Il ne me reste plus qu'à remercier mon invité, Émilie Moncillon. Je remercie également Raphaël Rousseau à la technique, à la réalisation Jean-Christophe Francis et Claire Poinsignon à la préparation. J'invite les auditeurs qui ont été intéressés par ce sujet à s'abonner à La Raison sur le site fnlp.fr, puisque nous avons fait tout un dossier assez important sur cette question il y a quelques mois, je crois que c'était au printemps dernier, et nous continuerons dans les colonnes de notre revue à traiter de ces questions. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci.